Nous sommes le jeudi 22 janvier 2026, et oui, il est 21h et quelques poussières de secondes sur Radio Canus en 2.2. Bienvenue dans le nerf de la game. Le nerf de la game, l'émission qui aborde le monde du jeu vidéo par sa face alternative. Chaque semaine ou presque, vous retrouverez ici un cocktail d'actu sur les rouages de l'industrie du jeu vidéo et sur les titres qui attisent la curiosité, surtout du côté indépendant du paysage vidéo-ludique. Ici, c'est jeux vidéo indé, c'est gros sous et c'est lutte sociale.
Oui.
On t'attend.
Ah, faut, c'est,
la suite.
C'est, ah, il faut que je dise. Oui, eh ben, écoutez, bonsoir Romain.
Bonsoir Xavier.
Romain, en fait, à peine a-t-il réactivé son Twitch que ma liste de souhaits sur Steam a doublé et ma banque a bloqué ma carte bleue par prévention. Pas merci Romain.
Je suis là pour toi.
Évidemment. Bonsoir Bettina.
Bonsoir.
Et salut. Bettina, entre les playformances samedi dernier et les playtests de l'Aquarium Ciné. Ce samedi, dans deux jours. Dans deux jours, elle est devenue la personne à suivre si vous voulez être présent dans les meilleures soirées lyonnaises.
C'est vrai, mais c'est pas nouveau, hein. Tu découvres ça, mais.
Ah non, moi je le découvre pas. J'ai déjà fait des afters de l'Indie Game Lyon.
Aïe. c'est vrai. Ce qui se passe à l'after de l'Indie Game Lyon reste à l'after de l'Indie Game Lyon.
Exactement. Bonsoir Julien.
Bonsoir, est-ce qu'on m'entend ?
Et oui, on t'entend.
Parce qu'il y a quelqu'un qui fait bien son boulot ici.
Waouh.
Et oui, et visiblement pas Julien.
Si, justement. J'ai pas dit qu'il y en avait qu'un. Mais qu'il y en a au moins.
Julien, quand il a su le thème de ce soir, il a absolument tenu à venir pour que la répartition par genre dans le studio de ce soir soit équivalente à celle de l'industrie du JV.
C'est vrai.
3 pour 1.
Merci à toi. Et puis, ton insistance a payé.
Toujours plaisir d'être cartésien.
Julien qui fait partie d'un truc qui s'appelle Presse F5. Un truc.
Oui, c'est un truc, ça s'appelle Presse F5. C'est un collectif de streamers et de streameuses qui crée des médias, enfin qui crée des articles et du contenu vidéoludique sur le jeu vidéo massivement indépendant. Puisqu'on essaye de donner de la visibilité à des gens qui en ont bien besoin.
Et on voit juste ton casque bouger. Fais coucou à la caméra.
Ah oui, c'est vrai.
Coucou à la caméra.
Voilà. Fais coucou à Stier qui t'écoute.
Et c'est notamment des podcasts qui n'en veulent, comme par exemple celui du Nerf de la Game qui par est exemple. Hébergé généreusement par Presse F5 et on l'en remercie. Et c'est pas du tout pour ça qu'il est là, Julien, vu que il est là surtout pour que vous puissiez nous voir sur la chaîne de Romain. Salut les gens.
Voilà. Faites
bonjour.
Mais on vous voit, hein. On vous voit très bien.
Oui.
Qu'est-ce qu'il y a au sommaire cette semaine ? De quoi qu'on cause ? Eh ben, on va parler des travaux sénatoriaux sur la place des femmes dans le jeu vidéo, en tant que consommatrice, en tant que sportive ou en tant que travailleuse, entre autres. Sachant que ce qui nous a mis la puce à l'oreille, c'était la participation de Women in Games à une des tables rondes organisées par le Sénat. Mais d'abord, on va parler de l'actualité des gens qui font des jeux vidéo sur Lyon et ses alentours. Bettina, je te laisse la main.
Oui, donc deux petites news. Tout d'abord, le dernier jeu de la Guillotine sort le 30 janvier sur Steam, donc très bientôt.
Les chimimi machin, là, j'ai oublié le nom exact.
Oui, si vous aimez le roguelite et le bullet hell, il s'appelle Tumini. Tumini Tiny Army, j'arrive pas à le prononcer comme il faut, c'est terrible. J'ai la bouche pâteuse, j'en sais rien.
On va sommer la guillotine de s'expliquer sur ce nom.
Exactement.
En venant ici, c'est pas possible.
On veut savoir.
La France veut savoir.
Et on reveut des cookies. Sur l'Indie Game Lyon, sur le stand l'année dernière, quand ils ont présenté leur jeu, ils offraient des cookies.
Ah ouais, ils achetaient le public, d'accord.
Ils offraient des cookies à ceux qui finissaient le premier niveau.
À ceux qui mettaient des bonnes reviews, non.
À ceux qui finissaient le premier niveau. Ils récompensaient le skill.
Très bien. bien.
Et bizarrement, j'y ai goûté.
Comment il se l'a
Moi, je dis ça, je...
Oui, mais d'accord, je comprends pourquoi j'y ai pas joué.
Exactement.
Donc, Tumini Taimi Army est un Vampire Survivor-like, coloré et plutôt mignon, en vrai, où on invoque une armée de Tumini, donc des petites bêtes rigolotes, pour combattre des vagues de démons sylvestres. Chaque Tumini a une manière de se déplacer. Certains Tumini courent en cercle autour de nous, d'autres nous suivent à la trace, etc. Et c'est à nous de gérer un peu ce joyeux désordre pour créer des synergies et survivre le plus longtemps possible. Comme dans tout Survivor-like, il faut récupérer de l'expérience des ennemis vaincus pour progresser, mais ici, on se constitue une armée de petits alliés. Il y a 15 Tumini différents, un système de capacités propres à chaque Tumini, 10 ennemis uniques et 2 boss, un système de méta-progression qui donne de la rejouabilité et des paliers de difficultés supplémentaires. Il y a une démo gratuite sur Steam si vous voulez l'essayer. Et voilà, j'imagine qu'elle va disparaître après la sortie du jeu. En tout cas, voilà, vous pouvez l'essayer et n'hésitez pas à le mettre en wishlist pour donner de la force aux devs. Et ensuite, donc le deuxième, sauf si vous avez envie de réagir sur Tumini, mais
moi j'y ai pas joué, donc je peux pas trop.
Moi je l'attends parce que c'est très intéressant et très intéressant en fait la façon dont ils l'ont développé simplement pour prendre de l'XP sur le fait de sortir un jeu sur Steam, de tout ce que ça implique, les formulaires, les règles, etc. pour prendre de l'XP pour leur vrai véritable projet derrière qui est Midnight Blood Rush pour lequel on les avait reçus ici même il y a 2 ans.
C'est vrai qu'on a déjà joué à 2 versions de Midnight Blood Rush. Et du coup, un truc qui a bien évolué avec le temps.
Exactement, et du coup on attend d'autant plus mais c'est intéressant voilà, qu'ils aient été capables de prendre de l'XP sur un autre projet plus court, plus simple, plus, mais qui est très intéressant malgré tout. Enfin, ils ont réussi à trouver quelque chose de très très cool dans le domaine du Vampire Survivor-like qui est quand même qui peut avoir tendance à tourner en rond. Là, je trouve qu'ils ont trouvé une bonne idée.
Ensuite, le deuxième petit jeu, Snekoban, du solo dev Seeker, est sorti sur Steam il y a maintenant 10 jours. Je vous en ai déjà parlé, si vous vous souvenez, parce qu'il était à la soirée de playtest d'octobre dernier. C'est un petit jeu avec des gros pixels de réflexion et de puzzle inspirés par les mécaniques de Snake et de Sokoban. On joue le serpent Sneko qui mange des pommes et pousse des boîtes. Une fois les pommes mangées et les boîtes déplacées sur les bons emplacements, il faut terminer le niveau en posant sa tête sur sa propre queue. Mais attention, on ne peut pas repasser sur un endroit déjà visité. Il était créé à l'origine lors de la GMTK Jam 2025, donc organisée par Game Makers Toolkit. Snekoban a depuis été enrichi de niveaux et de mécaniques supplémentaires pour en faire un vrai petit jeu. Pour faire tous les niveaux, comptez entre 2 et 6 heures selon votre capacité à résoudre les casse-têtes. Il coûte 3,99€ sur Steam donc.
D'accord. Est-ce que tu avais eu des retours globaux par rapport au playtest qui avait eu lieu justement en octobre? Est-ce que tu avais pu avoir des retours des joueurs et puis un retour aussi des développeurs en fait par rapport à cette soirée-là?
On avait fait un débrief. Concrètement, sur chaque jeu, j'ai pas le détail, en fait, si tu veux, de qu'est-ce que les playtests leur ont apporté précisément aux uns et aux autres sur chaque projet. Par contre, je sais qu'ils étaient contents, ils avaient eu suffisamment de personnes qui avaient testé les jeux, ça les avait bien aidés, c'était cool. Voilà, c'était pas. Ouais, mais j'ai pas plus de détails que ça, par contre.
Ok, ça marche.
Et du coup, ça me fait rebondir sur la prochaine soirée de playtest qui est donc.
C'était pas du tout voulu.
samedi 24 janvier, donc dans 2 jours. À compter du moment où on enregistre, qui est donc une nouvelle session de playtest à partir de 19h30 à l'Aquarium Ciné Café. Ça coûte 4€ si vous n'êtes pas encore adhérent à l'Aquarium Ciné Café, et sinon c'est gratuit si vous êtes déjà adhérent, adhérente. Voilà, et je ne reviens pas plus sur cette soirée, j'ai déjà décrit tous les 6 jeux qui seront présents dans l'émission de la semaine dernière, donc n'hésitez pas à écouter les replays.
Oui, des replays généreusement hébergés par Sébastien.
Tu sais, j'étais pas obligé de le rappeler à chaque fois. Hein.
Je suis pas obligé, mais
contractuellement, il est obligé.
J'ai déjà payé ta bière.
Vu ce que j'ai dit et vu ce que je vais dire, je sens qu'il vaut mieux que je prenne de l'avance.
Ça, c'est
ça, c'est inquiétant.
Donc, les femmes, ces êtres qui jouent à des jeux vidéo.
Est-ce que tu peux sortir de la pièce?
Mais qu'est-ce que c'est que cette introduction?
J'ai pas prévu de censure.
Ah, t'as pas prévu.
Bip.
Ce serait peut-être nécessaire.
Non, donc.
Sécurité.
De quoi on va parler ? On va parler du Sénat. Ce truc qui est encore méconnu finalement par la plupart des Français qui connaissent globalement l'Assemblée nationale, mais le Sénat, c'est peut-être ce rendez-vous de globalement de vieux croutons où on sait pas trop ce qu'ils foutent.
Bah, c'est peut-être parce que déjà on les élit pas.
Et qui sont désignés.
Voilà, contrairement aux députés, on les élit pas. Et il y a un minimum, il faut avoir un âge minimum déjà, donc c'est aussi ce côté vieux crouton qui.
C'est ça.
Et qui leur colle un peu au basque à cause de ça.
C'est ça.
Des vieux hommes blancs, en résumé quoi.
C'est.
Et, alors on va pas parler que de vieux hommes blancs, il y a aussi des vieilles femmes blanches.
Oui, mais elles sont pas nombreuses.
Et les vieilles femmes blanches, eh ben elles sont toutes à la délégation parlementaire aux droits des femmes et comme à l'égalité hasard. Des chances entre les hommes et les femmes.
Il y a pas que. Il y a un homme aussi dans l'histoire.
Oui.
Qui a l'air de un minimum savoir de quoi il parle.
Alors en
à
fait,
ce sujet,
en tout cas. On troll beaucoup, mais pour le coup, il y a une vraie saisie de sujet très important par cette délégation parlementaire. Alors en fait, cette délégation parlementaire, elle existe depuis le 13 octobre 1999 et elle a été instituée dans chaque assemblée, c'est-à-dire aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Les travaux de cette délégation, en fait, ils prennent le plus souvent la forme de rapports d'information sur des sujets divers et des rapports qui s'appuient sur des déplacements et des auditions, notamment de membres du gouvernement, ainsi que sur des tables rondes auxquelles la délégation associe des spécialistes venant d'horizons très divers, aussi bien universitaires et chercheurs, des responsables d'associations, des représentants de collectivités territoriales ou de la société civile. En fait, cette délégation, elle peut être saisie pour des projets et des propositions de loi, et ses travaux se concrétisent par des amendements au texte de discussion. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, contrairement à ce qu'on peut penser, lorsque le gouvernement demande à ce que des lois va demander à ce que des lois soient votées, en fait, que ce soit les sénateurs ou les députés, ils vont s'appuyer sur des documents pour dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce qu'il faudrait rajouter des choses à ces lois pour que ce soit viable, est-ce qu'il faudrait pas discuter de certaines choses qui ont été dans certains rapports pour pouvoir améliorer la loi en question. Et on pourrait penser, vu la teneur de certains débats, que la plupart des amendements ils sortent des fesses des gens. Ce n'est pas le cas, vu qu'il y a en fait des commissions, il y a beaucoup de commissions diverses et variées au sein du Sénat et de l'Assemblée nationale pour permettre de pondre justement des rapports qui permettent d'amender en fait,
de proposer
des amendements qui seront ensuite acceptés ou pas selon les décisions des assemblées, de l'Assemblée nationale ou du Sénat, selon où on en est au niveau du vote de la loi.
Mais du coup, des propositions qui sont un petit peu constituées de conseils, d'informations qui découlent finalement de ces auditions ou ces tables rondes dont on va parler. Enfin, le même type de rendez-vous finalement qui nous intéresse aujourd'hui, dans quel que soit le sujet finalement.
C'est ça. Depuis sa création, la délégation aux droits des femmes du Sénat s'est ainsi prononcée sur des textes tels que l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Peut-être que tous ceux qui ont déjà été dans un CSE sont au courant de cette égalité professionnelle qui oblige notamment à avoir une paye et des conditions de travail équivalentes et égales entre les hommes et les femmes pour le même poste, pour le même poste et une même rémunération.
Ça marche très fort.
Moi je vois pas de quoi tu parles.
C'est en cours, c'est un travail en cours, on va dire ça comme ça.
Un work in progress,
voilà,
c'est dit dans le jargon.
Exactement.
C'est un corpo bullshit.
Alors, je vais parler de plusieurs sujets. Globalement, gardez ce commentaire. on va être là-dessus.
C'est un travail en cours.
On va être là-dessus. Cette délégation s'est aussi prononcée sur la contraception d'urgence ou la lutte contre les violences au sein d'un couple. Actuellement, les sujets d'études, en fait, il y en a plusieurs. Il y a notamment la montée en puissance des réseaux et des mouvements masculinistes, dont on avait vu notamment On avait vu notamment une audience, mais du côté de l'Assemblée nationale cette fois-ci, avec plusieurs tristes cires, dirons-nous.
Ah oui, ça y est, ça, oui, ça y est.
Alexis Chen,
ce genre de choses.
Mais il n'était pas resté longtemps.
Il a des problèmes de réseau.
Il avait autre chose à foutre que voilà.
Il a raccroché au nez.
À une convocation officielle, ouais, machin, bref. Mais je crois que c'est pas terminé du coup.
Notamment aussi, on a une étude en cours sur la prévention de la récidive en matière de viol et d'agression sexuelle. Et on a aussi tout un sujet sur femmes et sciences, notamment l'attrait à la science dans l'éducation, l'attrait à la science dans les différents métiers et dans...
Pour encourager les vocations et permettre les femmes des carrières.
Exactement. À partir de novembre 2025, suite à plusieurs rencontres, notamment lors de la Paris Games Week de cette année 2025, cette délégation parlementaire a lancé une étude sur la place des femmes dans le jeu vidéo, avec pour objectif de répondre à trois questions. D'abord, comment amener les éditeurs de jeux vidéo à dépasser une vision stéréotypée des femmes et à poursuivre l'évolution engagée vers davantage de diversité ?
Demandons à Quantic Dream... Pardon. Vas-y, continue.
Non, mais d'accord. Non, mais ok.
Te laisse pas distraire.
Non, mais on parlera BHDL plus tard.
Voilà. Te laisse pas distraire.
Comment permettre aux femmes de prendre toute leur place dans la communauté des joueurs, y compris dans l'e-sport, sans craindre d'être victime de harcèlement et de violences sexistes et sexuelles ?
La réponse, elle est relativement rapide. Hein. Non.
Comment non ?
Écoute, alors actuellement.
Et enfin, comment consolider la place des femmes dans les entreprises de jeux vidéo en leur offrant des carrières pleinement reconnues, valorisées et protégées des discriminations sexuelles et du sexisme ? La réponse est en virant tout le monde, visiblement, si on en croit de ces dernières années.
Et techniquement, c'est de l'égalité. Hein. T'es licencié pareil.
Alors, on verra que c'est pas exactement le cas.
Non, ouais, justement.
Bizarrement.
Parce qu'on a des chiffres qui ont changé entre 2024 et 2025 sur le pourcentage de femmes dans l'industrie et notamment au poste de responsabilité.
Et ça baisse, y a tout qui baisse.
Mais ne spoilez pas la suite de l'émission.
C'est vrai, mais ça va être évoqué.
Effectivement, l'étude est toujours en cours, des sessions de travail sont prévues ces prochaines semaines, avec notamment une audition du directeur de la FJV, une table ronde de streaming avec notamment Ultia, Angle Droit et Mama Paprika, deux afro-gameuses, une visite d'un studio, je ne sais plus lequel.
Ça doit être Sandfall, hein. En vrai, ça a été évoqué.
Ça a été évoqué, mais c'est pas entériné en tout cas pour l'instant.
Non, mais ils ont déjà visité Tactical Adventures, le studio de Solasta.
C'est ça.
Mais voilà.
Et enfin, une table ronde prévue sur la partie e-sport d'ici fin mars. Sachant que, comme tu l'as dit, des rendez-vous ont déjà eu lieu, dont le dernier avec l'association Women in Games, le 15 janvier dernier. Avant d'aborder la teneur des échanges lors des différentes tables rondes qui ont eu lieu depuis novembre 2025, Bettina, est-ce que tu peux nous présenter ce qu'est Women in Games ?
Oui, avec plaisir. Donc, Women in Games, c'est une organisation à but non lucratif basée au Royaume-Uni, fondée en 2009, qui œuvre pour plus d'égalité et de parité dans l'industrie du jeu vidéo, dans la pratique des jeux vidéo et dans la scène e-sport. 2009, c'était une époque où les femmes ne représentaient que 6% des effectifs de l'industrie du jeu vidéo. En 2020, la moyenne mondiale était à 22%. Selon une enquête menée auprès de 15 des plus grandes entreprises de jeux vidéo dans le monde, seulement 16% des postes de direction sont occupés par des femmes. Le nombre de femmes travaillant dans l'e-sport, quant à lui, tout rôle confondu, est d'environ 5%, soit une femme sur 20. Et pourtant, près de la moitié des joueuses dans le monde sont des femmes. Donc si je reprends ce qui est écrit sur le site de Women in Games, cette organisation se consacre à la création d'un environnement de jeu juste et équitable pour les femmes et les filles dans les jeux vidéo en général et dans l'e-sport par des actions de partenariat, de plaidoyer, de recherche et d'actions communautaires. Women in Games milite pour que la diversité devienne la norme et non l'exception. Donc tout ça, je l'ai pris sur le site de Women in Games. Malheureusement, quand je faisais mes recherches aujourd'hui, la page What We Do ne fonctionnait pas.
C'est parce qu'ils foutent rien.
Donc je n'ai pas beaucoup de détails sur...
Tu as le droit de le frapper, hein. On s'est mis d'accord au début.
Oui, oui, c'est vrai. Mais il va falloir que je me lève et que je fasse un chat. Bref.
Ah là là, quel dommage.
Donc, qu'est-ce que je disais ? Donc oui, la page fonctionnait pas, donc j'ai pas pu voir quelles actions Women in Games menait. Mais de ce que j'ai pu comprendre de ce qui est écrit sur les autres pages du site, c'est que Women in Games concentre ses efforts dans la lutte contre le harcèlement et la discrimination, en ligne comme au travail, par la création d'espaces sécurisés d'échange et de soutien, et des espaces de réflexion et d'action pour élaborer des solutions. Donc concrètement, Women in Games agit principalement sur les réseaux sociaux pour rassembler une communauté diversifiée et lui proposer des espaces où s'exprimer et collaborer. Du moins, c'est vraiment ce que j'ai compris à la lecture du site. Maintenant, pour ce qui est de Women in Games France, que je connais déjà un petit peu plus, parce qu'en fait, aujourd'hui, je ne m'étais pas intéressée à Women in Games tout court. Donc, pour cette branche française, l'association a été créée en 2017. Elle est liée à Women in Games, mais elle est totalement indépendante et avec quelques différences. C'est notamment une association uniquement professionnelle, œuvrant pour la mixité dans l'industrie du jeu vidéo en France. Et sa démarche est plus inclusive car elle ne considère pas seulement les femmes, mais aussi les personnes non binaires. Là où sur le site de Women in Games, il n'y a aucune mention de personnes de genre marginalisées. C'est pas du tout formulé comme ça. Tandis que Women in Games France, si. Donc je vais dire WIG parce que c'est un peu long. WIG France mène des actions à travers des axes principaux, trois axes principaux pardon. Le premier, rendre les personnes de genre marginalisé plus visibles et mettre en avant des rôles modèles inspirants grâce à un réseau d'experts disposés à intervenir sur leur métier, en faisant rayonner des créatrices et leurs jeux sur des événements et via aussi un groupe de curation Steam, et par l'intermédiaire de son émission Twitch qui s'appelle Prestart. Deux, c'est sensibiliser et former les actrices du secteur à l'inclusion et à l'égalité via des prises de parole, des collaborations avec des entreprises, des campagnes de communication, de collage, mais aussi la création de ressources accessibles à toutes et tous et qui sont régulièrement mises à jour. Et la création de l'Adelph Game Fest qui réunit des associations pour des émissions, des tables rondes, des let's play, de jeux inclusifs, etc. Et enfin, le troisième point, c'est faciliter le développement professionnel grâce à des formations et du réseautage en mettant en place notamment des ateliers, des conférences ou encore un programme de mentorat. Donc, je le disais, l'association est indépendante, mais elle est soutenue par les syndicats et les clusters du jeu vidéo. Et elle a parmi ses partenaires de longue date des entreprises, comme une certaine grosse boîte de jeux vidéo qui s'appelle Ubisoft. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles je pouvais avoir par le passé une image de WIG France associée à du pinkwashing. Parce que oui, il y a une époque où je trouvais que l'association n'était pas assez engagée à mon goût. Mais aujourd'hui, elle prend des positions un petit peu plus assumées en prenant la parole à propos de certains sujets sur les réseaux sociaux. Et justement, on m'a raconté que le fait qu'elle avait pu soutenir une action de grève avait pu faire grincer quelques dents parmi les partenaires. Et donc, à ce propos, j'ai pas de détails et de toute façon, c'est pas le sujet. Mais ce que je voulais souligner par là, c'est que l'industrie reste encore très hermétique à toute forme de progressisme et que justement, WIG France doit jongler entre son activisme et ses besoins de partenariat pour avoir des financements, mais aussi pour pouvoir agir de l'intérieur. Donc voilà, la branche française se consacre à faire évoluer l'industrie du point de vue des travailleuses, tandis que WIG, enfin Women in Games tout court, s'intéresse aussi aux joueuses et aux espaces de jeu en ligne où la toxicité est encore bien trop présente. Je conclue sur des chiffres trouvés sur le site de WIG France. Aujourd'hui, il y a seulement 24% de femmes et 5% de personnes non binaires dans les studios français. Les métiers techniques sont ceux où il y a le moins de femmes avec de très faibles représentations, donc encore bien en dessous de ces chiffres. Et les écoles comptent 26% seulement d'étudiantes.
C'est intéressant parce que c'est des informations en fait qui sont complétées ou mises à jour, je dirais, par justement l'audition de la semaine dernière.
Oui.
Où effectivement ce chiffre de 24%, en fait, aujourd'hui on est plutôt à 20%.
Ouais.
Ok.
Mais entre 2024 et 2025. Hein, donc
suite à
différents licenciements dont on a déjà parlé. Bizarrement, bon,
des départs
volontaires, comme on dit chez Ubisoft.
Des disparitions, l'attrition non, naturelle.
Voilà, exactement. Donc on sent que voilà, quand il y a eu besoin de licencier, le choix a été relativement facile. Hein, visiblement, il y a une population qui était plus ciblée qu'une autre. Et puis par rapport au partenariat, etc. Enfin, c'est vrai que c'est quelque chose qui a été beaucoup mis en avant dans le dans l'audition, entre guillemets, c'est les moyens finalement que Women in Games possède, comment ça fonctionne, et ça fonctionne quasi exclusivement sur du bénévolat, sur du temps pris, sur du temps pro, sur du temps perso.
Oui.
Donc voilà, ce sont effectivement, c'était très contente finalement de pouvoir un petit peu exprimer ces choses-là auprès du Sénat pour simplement envisager peut-être du soutien tout simplement pour leur action par le biais par des pouvoirs publics, par des subventions, n'importe quoi, mais pour effectivement pouvoir le faire de façon constructive avec le temps de le faire correctement. Donc voilà, ça fait partie des choses qui étaient intéressantes.
Oui, sachant que l'intervention de Women in Games dans cette étude ne s'arrête pas justement à cette audition qui a eu lieu le 15 janvier, sachant que il y aura la présence de Women in Games aussi dans les tables rondes dont j'ai parlé, notamment la table ronde e-sport et la table ronde streaming.
Qu'elles avaient déjà été rencontrées pendant la Paris Games Week, elles étaient physiquement présentes, en fait, c'était à ce moment-là qu'elles s'étaient rencontrées aussi. Donc oui, c'est un interlocuteur, en fait, que le Sénat, en tout cas, enfin, que la Commission, en tout cas, a décidé d'inclure de façon un petit peu.
Très structurante, même.
Tout à fait.
Trouve,
hein, et de façon vraiment régulière dans le processus.
Avec, je pense, un vrai rôle de mise en relation et un vrai rôle pour dire, OK, pour tel ou tel sujet, voici les personnes à qui vous devriez parler.
Complètement, il y a vraiment de la communication autour de ça. À Paris Games Week, ils avaient rencontré notamment Audrey Le Prince, qui est une des cofondatrices en 2017, comme tu le disais. Donc voilà, il y a un vrai, il y a une vraie continuité là-dedans. En effet, je ne sais pas si avant effectivement cette conférence, enfin cette audition de la semaine dernière, il y en a eu deux qui étaient intéressantes.
Tu veux évoquer le sujet ou tu veux
Je t'en prie, vas-y. Si tu as quelque chose de près.
Non, c'était juste pour dire, comme je le disais, que cette étude-là avait commencé en novembre, qu'il y a eu plusieurs choses à ce sujet qui ont été faites, outre la rencontre à Paris Games Week, alors je sais pas si toi t'avais pu trouver tout le compte rendu de ce qui s'est fait là-bas, mais c'était un peu flou pour moi.
Ouais, parce non, que c'était, pas, un, bah, c'était des rencontres, des discussions, c'était quand même, voilà, il n'y avait pas quelque chose de concret avec quelqu'un qui faisait un compte rendu marqué.
Mais à partir de novembre, effectivement, il y a eu une rencontre je te laisserai préciser qui sont les personnes, mais avec représentant du CEL, donc du syndicat des éditeurs de logiciels
de loisirs,
et du SNJV, le syndicat national du jeu vidéo, qui est, on le rappelle, le syndicat patronal, à ne pas confondre avec le STJV.
La différence entre le MEDEF et les autres syndicats, qui est
pas invité lors de aucune
et qui n'est pas considéré comme étant nécessaire de l'inviter. Enfin, on en reparlera.
Ce qui me paraît assez étonnant, mais bon, voilà. Et donc, il y a eu cette.
On parlera de la constitution de la commission, peut-être que ça joue.
Oui, aussi. Et il y avait aussi une table ronde avec trois chercheuses. Deux chercheuses sur le. Qui notamment parlait de la place des femmes dans le jeu vidéo,
leur sujet d'étude et leur sujet de.
Mais de façon plus sur le côté représentation.
Oui, voilà. Avec des vraies études sur le long terme.
Voilà,
des
pas sur. En gros, pas sur les femmes qui sont dans l'industrie ou quoi que ce soit. C'est vraiment surtout sur la partie représentation.
C'est ça, les icônes, les héroïnes, les personnages. Voilà. Cette partie-là, en effet, qui était. À mon sens, les plus intéressantes. Et puis, bon, bah, avec un peu de chance, heureusement que ce soit les plus intéressantes parce que c'est les seules pour lesquelles on a des comptes rendus.
Ouais, je pense qu'il y avait quand même quelque chose à retirer de la partie CEL et SNJV, justement pour.
Ah, bien sûr.
Voilà.
Bien
justement
sûr.
Justement, quand on dit il n'y a pas le SNJV, ben, ça se lit clairement dans le rapport.
Non, mais bien sûr. Mais du coup, oui, on parlait un petit peu de. Enfin, voilà, on parle un petit peu de cette commission, malgré tout, qui est constituée. Bah, la présidente, c'est la sénatrice UDI de Lyon, Dominique Vérien, composée également donc de Annick Billon, qui est sénatrice UDI de Vendée, et de Marie Mercier, sénatrice Les Républicains de Saône-et-Loire, avec elle Adèle Ziane, qui est le sénateur Parti Socialiste de Seine-Saint-Denis, donc qui sont les quatre personnes qui sont plus ou moins tout le temps dedans. Enfin, il y a eu un petit peu de roulement, il y a également des des différents rapporteurs qui par moment interviennent également dans les différentes tables rondes, mais là on est vraiment sur les quatre personnes globalement qui gèrent le truc. Donc oui, on est entre le centre droit et un tout petit bout de l'extrême droite de la gauche, on va dire comme ça.
Ça commence à être compliqué.
Oui, non, mais t'inquiète.
Ça commence à être compliqué.
Les gens qui m'écoutent comprennent.
Oui, donc les anarcho-marxistes
du Parti Socialiste,
ils ne sont pas les bienvenus, quoi.
Il y a un peu de ça. Et, effectivement, voilà, le 13 novembre, il y a eu une table ronde avec Nicolas Vignol, donc délégué général du CEL, et Vanessa Kaplan, délégué général du SNJV. Voilà. Donc des personnes différentes, finalement, que de celles qu'on a pu, dont on avait parlé quand on avait parlé de l'audition auprès des députés,
oui,
de la présidente et du président du CEL et du SNJV qui étaient à l'époque Anne Desvoisseaux
avec et les gens du CNC, c'est ça?
Oui, il y avait okay. également les personnes du CNC, donc Anne Desvoisseaux au SNJV à l'époque James Rebourg, oui, du CEL.
Sachant que Anne Desvoisseaux n'est plus.
Non, c'est Levan dont j'arriverai voilà, jamais à me souvenir.
Levan quelque
nom.
Chose.
Voilà, je suis vraiment désolé.
Trop compliqué.
Je suis vraiment désolé parce que c'est pas bien du tout
de
faire ça.
Je m'en fiche, il ne se souvient pas de notre nom. Non
oui, mais, lui, bah, mais malgré tout, c'est pas une question de respect des noms. On sait rien. C'est la base. Donc effectivement, c'est délégué généraux de chacune de ces organisations, de ces syndicats, qui étaient présents donc avec les sénateurs et sénatrices dont on a déjà parlé. Donc effectivement, comme tu le disais, absence totale du STJV dans ces différents échanges.
Ou de quelconque représentation syndicale ou représentante des travailleurs, voilà. Ça pourrait être solidaire informatique.
On aurait pu parler de solidaire informatique, bien voilà. sûr. Donc voilà, mais visiblement ils ne savent pas qui c'est, puisque tout au long, pour l'instant en tout cas, de ces différentes auditions, à chaque fois qu'ont été évoqués les différents acteurs de l'industrie, il a toujours été précisé que c'est bon, on a rencontré également les syndicats. Les syndicats qui comptent dans le truc.
Qui comptent un, et c'est le SNJV.
Voilà, donc c'est un petit peu, petite limite hein, déjà à toute la démarche. Mais...
Petite parenthèse, revenez à l'émission de la semaine dernière où on parle de syndicalisation.
Par exemple.
Et de la longue tradition syndicale dans le jeu vidéo.
Bah après, ça s'étend au-delà du jeu vidéo. Hein. Les syndicats, on convoque les syndicats qui nous arrangent.
Bien sûr. Oui. Mais malgré tout, bon, voilà, c'est important de le rappeler, je pense, parce que finalement, si tu regardes un petit peu le reste, c'est pas inintéressant non plus les différents intervenants qui sont auditionnés. Donc voilà, malgré tout, dans cette discussion-là, donc il y a l'audition, je l'ai lu parce qu'il y a un compte rendu qui est disponible sur le site du Sénat et il est. Elle est intéressante. Bon, je vais faire court parce que on va essayer de parler de maximum de choses, mais je vous invite quand même à la consulter parce qu'elle est pas inintéressante. Il y a un peu le côté, nous, le CEL et le SNJV, on fait tout bien, on fait les choses pour que ça aille dans le bon sens. On fait des efforts pour que, la modération, tout soit un minimum encadré. Le PEGI. Donc évidemment, les éditeurs français sont exemplaires. Des bisous Ubisoft et Quantic Dream. Les deux revendiquent de travailler sur différents projets et différentes formules, j'ai envie de dire, avec Women in Games. Ce qui pouvait évidemment aller dans le sens de ce que tu disais aussi, mais c'est logique finalement qu'ils jouent le jeu. Enfin, bon, je suis pas surpris finalement que Women in Games joue le jeu parce que ce sont les interlocuteurs qui ont besoin de convaincre malgré tout.
Oui, bah oui.
Puis précise évidemment que dans les jeux français, il y a des héroïnes, Plague Tale, Life is Strange, Dordogne. Donc voilà. Et Toc, parce que chez nous, il y en a.
Et Lara Croft.
J'ai une amie femme. Attends.
On n'est pas loin. Pour le CEL, donc la modération que j'évoquais progresse dans les jeux et sur les plateformes. Ça s'améliore, etc. Il y a même maintenant des tentatives d'utiliser l'IA pour modérer même les chats vocaux. Battlefield 6. C'est pas inintéressant comme démarche, essayer de également modérer les chats vocaux puisque ce sont une vraie source de harcèlement et notamment des joueuses.
Complètement.
Donc voilà, ils évoquent ces différents éléments, un point de vue qui n'est pas partagé par Women in Games par exemple. Une phrase que je n'attendais pas au milieu de tout ça, qui vient du CEL, nous sommes préoccupés par les tendances anti-wokistes qui se développent actuellement et traversent l'ensemble des industries culturelles aux États-Unis.
Okay.
Voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus. Voilà, mais comme je disais, Women Games donc les a pas cités dans les soutiens et dans les différents interlocuteurs avec qui elle travaille régulièrement. Voilà, mais enfin, je vais essayer de on va se laisser du temps pour parler d'autre chose, mais effectivement cette approche là finalement de pouvoir le point de vue institutionnel finalement de comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on essaye de garantir, etc. Enfin, au sein de tout ça, alors que bon, on en parlait des chiffres très rapidement, moins 4% de travailleuses dans le jeu vidéo entre 2024 et 2025, et au niveau des postes décisionnaires, au niveau des postes de direction, on est passé de 20% à 14% entre 2024 et 2025. Ouais. Donc, si c'est ça les efforts faits par le SNJV pour maintenir l'emploi et en tout cas garantir des carrières aux femmes et aux personnes effectivement de minorité de genre. Bon, pour l'instant, en tout cas, ça marche pas très fort. C'est un constat, tout simplement. C'est pas un jugement, c'est clairement un constat. Entre-temps, donc, comme on disait, ils sont également allés voir le studio Tactical Adventures, donc
Solasta,
par des anciens d'Amplitude. Donc c'est intéressant parce qu'ils ont pu échanger directement avec des travailleurs et des travailleuses sur leur lieu de travail, donc voilà, et comprendre un peu mieux finalement. Et moi j'ai senti une légère, alors, vraiment très légère, évolution sur la compréhension finalement du milieu dans lequel qu'elles auditent, en fait, d'une certaine façon. Parce que du coup, voilà, à force de rencontrer des gens et de parler un petit peu des réalités du terrain et du métier, bon, bah, elles finissent par comprendre un petit peu qui travaille là-dedans, quelles compétences techniques ça demande, quelles formations ça demande, que ce sont des postes de cadre, etc. Enfin, voilà, c'est des compétences qui vont avec. C'est pas inintéressant parce que c'est des choses qui sont plus, qui pouvaient être évoquées au début en mode un petit peu, bah, c'est des jeux, enfin, le jeu vidéo, c'est un truc pour les enfants, etc. Et ça évolue légèrement, bref, légèrement. C'est pas, on n'arrive pas à un truc ouf à la fin, mais. Il y a également donc les représentants du CNC qui ont été auditionnés, mais là malheureusement il n'y a ni vidéo ni compte rendu.
Rien du tout.
Et c'était peut-être intéressant de savoir ce qu'ils ont dit.
Je me demande même si ça a eu lieu en fait. Parce que
normalement le 17 décembre. Et si c'est évoqué à un moment dans le compte rendu de l'audition du 18. En fait ils disent hier on a vu les gens du CNC machin. Donc et visiblement ça a existé, mais pourtant c'est important parce que c'est un des éléments justement, c'est un des leviers évoqués par Women in Games pour avoir un impact finalement là-dessus, parce que les aides publiques et notamment celles du CNC pourraient être conditionnées, mais on va en reparler. Je voulais aussi parler donc avant de parler de l'audition de Women in Games, évoquer donc la table ronde avec les chercheuses et enseignantes Fanny Lignon, maîtresse de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'université Claude Bernard Lyon 1. Oui. Qui a dirigé notamment l'ouvrage Genre et jeux vidéo, par exemple. Et alors, je vais prononcer son nom comme je peux, parce que je ne sais pas du tout comment ça se prononce, mais je pense que je vais le charcuter dans tous les sens malgré tout. Hager Gemel, on va se mettre d'accord là-dessus, mais j'en suis désolé pour elle. Professeure de management et directrice de la chaire diversité et inclusion de l'EDEC Business School. Donc voilà, je trouvais très intéressant cette le compte rendu, en tout cas, j'ai pas regardé la vidéo parce qu'elle dure une heure et demie, mais j'ai lu le compte rendu.
J'ai trouvé que c'était le compte rendu le plus intéressant.
Complètement.
Parce que, alors, comme toi, sur la partie CL, SNJV, un grand classique de c'est super tout ça, j'avais tiqué aussi sur le côté l'anti-wokisme est un problème.
On est sensible à ça, on fait attention.
Ouais. Mais je pense que c'est parce qu'il se voit sur le marché international la France comme un truc de diversité, entre guillemets, tu vois.
Oui, encore en tout cas, c'est encore quelque chose qui essaye d'être.
Oui, c'est-à-dire que voilà, c'est la preuve avec justement le succès de Expédition 33,
bien
c'est
sûr.
Le côté très français, le côté très c'est un truc divers et voilà. Et ils se disent que peut-être avec l'antivoquisme américain et le protectionnisme qui va avec, peut-être que des produits français marketés, brandés français sera peut-être moins facilement.
Bon, 2025 nous a prouvé complètement l'inverse.
Je sais bien, mais je pense que
mais c'est intéressant.
Moi, je l'ai compris que comme ça, je l'ai pas compris sous l'angle le côté problématique de représentation de la.
Oui.
Enfin,
ouais,
c'est comme ça que je l'ai compris, tu vois.
Oui, je pense. Enfin, je partage un peu ton point de vue. Ouais.
De même, parce que justement, il précise bien l'anti-wokisme aux États-Unis en omettant complètement ce qui se passe en France, qui est plus ou moins la même chose, sauf que c'est beaucoup plus évident aux États-Unis en ce moment.
On va reparler de la conférence des auditions, pareil, sur le masculinisme.
Voilà.
Mais en tout cas, ouais, il y avait ça. Il y avait effectivement donc Fanny Lignon, notamment, qui rappelle que d'après le CNC, il y a plusieurs publics de joueurs et de joueuses les joueurs hardcore, les jeux détente casual, les jeux joueurs sur mobile. C'est comme ça que le CNC les a catégorisés, oui. Que effectivement il y a les hommes sont pas plus représentés chez les hardcore gamers, les femmes chez les joueurs mobiles, alors que c'est 50-50 chez les joueurs casual détente. Donc c'est intéressant parce que c'est pas les mêmes types de représentation dans ces différents jeux, en fait, dans ces différents publics. Rappelle que la diversité est plus marquée, que si la diversité est plus marquée aujourd'hui, enfin, sur certains types de jeux, il reste encore pas mal de stéréotypes de genre, et même dans les jeux où il y a plus de présence féminine. C'est-à-dire qu'on garde des stéréotypes de genre avec les corps masculins armés, corps puissants, représentation médiorative, alors qu'à l'inverse, les corps féminins sexualisés, tenues suggestives et inadaptées aux activités qu'elles sont censées effectuer.
Tu veux dire qu'on va pas se battre avec une grosse épée en bikini ?
Est-ce que tu connais Stellar Blade ? Stellar Blade qui est évidemment cité avec la personnalité...
Est-ce que tu connais n'importe quel jeu japonais ou coréen, on va pas se mentir.
La différence entre... on pourra en parler longtemps, mais la différence entre un Nio... Nier Automata.
Oui.
Ou Bayonetta. Oui. Et un Stellar Blade, c'est l'absence de personnalité du personnage, qui est simplement construit autour du male gaze, mais qui n'a même pas de justificatif, d'explication, de rôle, de scénario qui tourne autour d'elle en tant que personne. Alors que dans Stellar Blade,
basiquement, tu la remplacerais par un gros monsieur musculeux, le propos sera le même.
C'est un peu ça. Et donc, alors que la personnalité est inexistante et son corps, ses tenues et même la caméra. Penser pour le male gaze, le male gaze évidemment des hommes hétérosexuels et pas pour les combats justement non plus.
Ah mais moi je pensais donc, à des jeux genre Atelier.
Ça joue aussi bien sûr. Mais en fait,
où faut être en crinoline et en talons de 12 cm pour aller.
Faire acheter le pain.
Surtout planter des carottes.
Oui.
C'est pas comme ça que tu plantes tes carottes.
T'as jamais essayé, tu sais pas. D'accord. Non, parce que c'est une des remarques qu'on peut faire un petit peu sur le truc, c'est qu'il se concentre. Alors, je comprends pourquoi, mais malgré tout, sur les triple A, évidemment, les jeux les plus grands publics, qu'ils soient mobile, console, PC, ce que tu veux, aussi parce que c'est là que ça a le plus gros impact, parce que ça touche le plus grand nombre.
C'est ça.
Mais c'est vrai que, ils ont un regard qui est assez centré là-dessus, et quand on est, un consommateur de jeux indés, on a toujours un peu l'impression d'être complètement concerné par certains trucs, parce que le sujet est quand même très spécifiquement orienté sur cette partie-là de l'industrie. Je comprends encore une fois
Le dis, c'est que les joueurs et joueuses de jeux indés sont minoritaires en fait par rapport au nombre de personnes qui jouent aux jeux vidéo de manière générale. Donc c'est pas là-dessus qu'il faut se concentrer.
Ça peut être une vraie vitrine aussi de ce qui est possible de faire d'autres. Si comme certains, tu fais rentrer Expédition 33 dans les jeux indés, ça peut te permettre. Que certains ne sont pas d'accord avec cette définition.
Je trouve que Romain est très taquin ce soir.
Oh, pas du tout. Moi, je me suis tapé toutes les conférences toute la journée.
Donc du coup, il a des comptes à régler. Quoi.
Exactement.
Mais peut-être qu'il va passer sur le sujet de la soirée.
Alors, je vais finir vite fait, mais effectivement, tu fais bien. Tu fais bien, parce que c'est pas Xavier qui allait m'amener dessus. Ici, bref, elle évoque évidemment d'autres exemples qui vont dans le bon sens, notamment les gros jeux AAA, Ellie de Last of Us, Maxine Caulfield de Life is Strange, corps réaliste, personnage intéressant avec quelque chose à dire. Moins de femmes objets, plus de femmes sujets.
J'ai pas vu Double Exposure pour dire qu'elle est intéressante, mais bon, ça.
Moins de femmes objets, plus de femmes sujets, c'est une des expressions utilisées que je trouve intéressante et bien trouvée, mais certaines représentations toujours absentes. Où sont les femmes rondes, d'âge mûr, hors des canons de beauté contemporains ?
Oh, les femmes d'âge mûr, ça me fait penser.
Ce qui est d'ailleurs reproché à l'héroïne du prochain Fable, par exemple.
Chicken Foot.
Ou le jeu de détective avec les grands-mères.
J'y
ai joué aujourd'hui.
C'est cool.
Effectivement. C'est pas mal. Je suis pas. Bon,
plus c'est un autre sujet.
Une autre fois. Une autre fois.
Bref, ce qui reprochait à l'héroïne du prochain Fable de ne pas être belle selon ses canons de beauté. Également, l'absence de femmes. Enfin, la faible représentation des femmes non blanches. Enfin, bref.
Et si vous vous rappelez, Aloy, dans le dernier opus, elle était entre guillemets moins jolie. Et du coup, les gens. Enfin, il y avait une partie des gens qui n'étaient pas contents. Et qui était oh là là, elle est moche et machin.
Et puis elle fait des bisous aux filles.
J'avais beaucoup aimé notamment les représentations dans Lost Record. Les représentations, en fait, c'était juste, bah, c'était des filles.
Voilà.
C'était
tu as également
dans une certaine diversité.
Le principal reproche qui est fait à Star Wars Outlaws, c'est que tu peux pas jouer un protagoniste masculin.
Un gars.
Oui, oui.
Tu peux pas jouer un gars, voilà.
Mais tu vois, voilà,
c'est vrai que dans Star Wars, il n'y a jamais eu du héros masculin en plus. Dans aucun jeu.
Ça manque.
Ouais, ah, c'est vrai, c'est vrai.
Bref, l'intervenante de l'EDEC, dont j'ai écorché le nom tout à l'heure, Hagar Gemel, a créé notamment un test de Bechdel. Donc le test de Bechdel, c'est pour tester si une œuvre culturelle a une présence féminine, j'ai envie de dire équivalente à la présence masculine, mm-hmm. si les personnages féminins ont finalement un nom, une fonction en dehors d'être d'être une faire-valoir d'un personnage masculin, la mère de, la femme de, la fille de. Voilà, donc bref, elle a fait ce test-là, c'est une étude qui est toujours en cours. Donc test de Bechdel adapté aux jeux vidéo, étudié 8566 personnages dans 129 jeux entre 1988 et 2024. Les résultats ne sont pas encore complètement publiés, mais elle a évoqué dans cette table ronde donc 3 jeux sur les 129 qui remplissent tous les critères. Il y en a 4 des critères, c'est pas non plus ouf. The Last of Us Part 2, Fire Emblem Fates et Fire Emblem Engage. Et 67 jeux sont sur les 129 qui n'ont satisfont aucun. Donc voilà, elle est également intéressée pour faire ce même genre d'études, l'étendre finalement à d'autres types de stéréotypes et de diversité, notamment la représentativité du handicap.
Pardon,
une question intéressante de la présidente. Question intéressante de la présidente à ce moment-là. Elle a demandé en fait si les jeux sexistes se vendent mieux. Elle n'avait pas forcément les éléments pour répondre à ce moment-là, mais je trouvais la question pas inintéressante.
Non, mais la question est bonne.
Maintenant, voilà, elle avait effectivement, elle est revenue sur les justifications, on va dire historiques, qui sont souvent utilisées pour ne pas mettre des femmes à des postes de pouvoir. En disant, non, mais à l'époque médiévale, les femmes, elles n'étaient pas chefs de guerre. Il y a rarement des reines, il n'y a que quelques pays qui acceptaient des reines à leur tête. Bref. Mais effectivement, pourquoi revendiquer l'argument de la réalité historique uniquement quand il s'agit de représenter les femmes et les hommes pour les remettre à leur juste place par rapport à une histoire, alors qu'on parle de jeux, évidemment, d'histoire fantasmée, inventée, d'univers irréaliste.
Pareil pour les minorités, c'est fou.
Absolument.
Oui, puis
absolument.
Ça me renvoie à un livre que j'ai lu. Il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'est je suis pas sûre du titre, je crois que c'est Une histoire des femmes ou je sais plus, il faudrait que je retrouve, mais justement un bouquin où justement c'est en fait la personne qui l'a écrit cherche à pas recenser mais liste un certain nombre de femmes qui ont fait l'histoire et qu'on a complètement oublié parce que l'histoire est écrite par les dominants et comme on est dans un monde patriarcal on a complètement oublié que il y a quand même des femmes qui ont fait l'histoire aussi et oui il y a eu des femmes qui ont gouverné, oui il y a eu des femmes guerrières, oui il y a eu tout ça, c'est juste que elles sont totalement invisibles mais elles ont bien existé. Donc cet
déjà il est faux historiquement et en plus de ça, mais c'est qu'une question de les représentations qu'on peut avoir les clichés qu'on a sur beaucoup, beaucoup d'époques, tout simplement, et qui sont, malgré tout, que tu peux quand même balayer du revers de la main à partir du moment où tu fous des trucs extraordinaires tu fous des pouvoirs magiques dans ce que tu veux. Enfin, à partir de là,
d'essayer
de respecter quoi que ce soit.
Je sais pas, moi, je lis les livres d'histoire de Monsieur de Villiers, Monsieur Zemmour, et honnêtement, il y a aucune trace.
Est-ce que tu peux sortir de cette pièce
de tout ce dont tu parles dedans?
On m'avait vendu une démonstration de boxe thaï.
Voilà, c'est le moment. Mais on attend.
Ça arrive.
Donc effectivement, le sujet, comme le disait Julien, qui nous intéresse aussi aujourd'hui, c'est effectivement l'audition des représentants de l'association Women in Games, Marie-Lou Dulac, la présidente, Justine Boulanger, la secrétaire générale, et Anna Bressan, la référente événementielle, qui était donc reçue. Et là, effectivement, il y a eu beaucoup de choses de dites. Je ne sais pas si vous voulez... ou si c'est où je continue.
Je t'en prie.
Non, vas-y, je suis en train de chercher le titre du bouquin dont je vous parlais, parce que ça m'embête de ne pas le retrouver.
D'accord.
Mais je t'écoute.
Ok. Pas de souci. Donc, effectivement, c'était... c'était surtout intéressant, je trouve, le début, parce qu'il y a eu donc toute une phase de présentation avec des slides qui avaient été préparés par Women in Games, qui sont des utilisations de chiffres, en fait, qu'on retrouvait dans différentes études qu'on a déjà évoquées, par exemple, ici, avec notamment les chiffres du CEL et les chiffres du CNC sur le pourcentage de personnes, de femmes, d'hommes qui jouent aux jeux vidéo dans tel domaine, les âges.
Les fameux rapports dont on parle chaque année, justement, qui sont édités
par le CEL, par le CNC, par dans le but de mettre en avant certaines choses, mais également donc de voir un petit peu les évolutions de certaines choses aussi.
Sachant que le chiffre du CEL, c'est toujours sur regardez, les femmes, c'est toujours plus, toujours.
Oui. Voilà. Et puis c'est en France.
Précision importante. Il y a pas mal de reprises. Elles ont précisé en fait qu'elles sont allées chercher des chiffres à l'international parce qu'elles n'avaient pas de chiffres. Elles n'avaient pas de chiffres pour la France précisément.
Sujet, ouais.
Et justement, c'est toujours un indicateur qui est important. Quand vous pouvez pas faire des statistiques sur quelque chose, c'est déjà un gage de sous-représentation.
Mmh. Et c'était effectivement, ça fait partie de leurs revendications, de leur proposition en fait, parce que sont arrivées relativement vite, parce que donc elles ont un petit peu présenté, comme tu l'as fait finalement Bettina, l'association, son but, comment est-ce que voilà leurs différentes propositions. Et du coup voilà, c'est d'ailleurs, les sénatrices les ont remerciées pour ça, d'être venues avec des propositions, parce que comme elles disent, en fait souvent on écoute les gens, voilà, mais c'est plus rare qu'on nous propose quelque chose, pas clé en main, mais au moins des axes vraiment, ouais. Et puis des trucs vraiment très concrets,
proactifs,
exactement. Donc elles ont beaucoup parlé de elles ont un petit peu parlé également de la, donc voilà, comme on le disait, des représentations, donc des différentes parce que c'est souvent effectivement des vitrines, des révélateurs, des comportements, des violences. Il y a vraiment cette logique d'impunité aussi sur le harcèlement en ligne, sur ces choses-là.
C'était deux problématiques majeures de leur conférence.
Oui.
C'était vraiment la représentation et la modération, enfin tout ce qui est modération, présence en ligne, sécurité en ligne. Donc c'est vraiment les deux axes majeurs, voilà. En fait.
Et donc elles ont interrogé dans ce cadre-là, enfin le cadre légal existant. Est-ce que les sanctions, est-ce que le cadre légal est suffisant? Est-ce que les sanctions sont adaptées? Elles ont rappelé que les harceleurs d'Ultia n'ont été que trois à être condamnés il y a quelques mois. Mm-hmm. Je ne sais plus quand c'était exactement. Donc par rapport aux centaines, milliers, je ne sais plus combien ils étaient.
Dizaines de milliers, l'ordre de grandeur.
Oui, c'est ça.
Et à continuer à le faire.
Il y avait eu pareil pour lors du procès sur le harcèlement de Nadia Dam, où pour le coup, il y avait eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de prévenus. Et au final, je crois qu'on est à moins d'une dizaine de condamnés.
Et du coup, voilà, les comportements qui découlent de ces violences verbales et de harcèlement, l'invisibilisation, le renoncement finalement, des fois aussi à jouer, le renoncement à des carrières dans l'e-sport, parce que e-sport étant une vitrine d'autant plus d'autant plus mise en avant entre guillemets, et encore plus parce que tu essayes d'en faire ta carrière, de travailler.
De toute façon, quand tu deviens un personnage public,
tu as des joueurs de jeux vidéo français professionnels qui arrivent à vivre de leur activité. Je crois pas que ce soit le cas de joueuses actuellement.
À part Kayane, effectivement, paraît compliqué. Ouais.
Et il disait qu'il y a que 7% de femmes dans les professionnels du jeu vidéo, enfin de l'e-sport en français, notamment. Il faisait également un petit peu les mêmes calculs par rapport à Twitch. Dans le streaming, en fait, il n'y a que 10% des 1000 streamereuses les plus importantes sur Twitch qui sont des femmes, en tout cas qui ne sont pas des hommes. Ça fait effectivement peu, pas par manque de niveau ou d'engagement, mais pour les mêmes freins structurels qui avaient été évoqués sur la présence dans les studios.
Tu dis combien sur les 1000 premiers ?
10%.
Ça fait une petite centaine.
T'as déjà très très peu de gens qui vivent de Twitch, globalement.
C'est généreux.
Ce qui est important de retenir, c'est que c'est vraiment en fait on retrouve les mêmes problèmes systémiques, les mêmes problèmes structurels dans le secteur du jeu vidéo, qui sont amplifiés par le fait que ça a été un milieu qui était de base très 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 masculin.
Bien sûr.
Et du coup, ça amplifie des problèmes mais qu'on connaît déjà.
Bien sûr. Pardon, je t'en prie.
Non, j'allais juste dire, de toute façon, en fait, pour être streameuse, c'est la double peine, parce que déjà, c'est un milieu encore très masculin, du coup, c'est très difficile de se faire une place, mais en plus, vous le savez très bien, la parole est vraiment libérée sur Internet, et du coup, quand tu t'exposes comme ça sur Internet, c'est très très dur à supporter au quotidien. Donc,
c'est pour ça qu'on disait qu'il y avait effectivement du renoncement, même de l'invisibilisation, de la modification de voix. On parle des VTubeuses, par exemple, qui aussi cachent leur apparence et des fois même modifient leur voix.
Un process de s'invisibiliser.
Voilà.
Quand on est une femme, c'est s'invisibiliser pour se protéger.
Parce qu'elles sont surexposées à ces menaces.
C'est ça.
Bien sûr. Le nombre de joueuses en ligne, justement, qui ne parlent pas ou justement qui modifient leur truc.
On en parlait, je ne sais plus si c'était avec Jenna ou avec Morgane dans les interviews récentes qu'on a fait ici, quand justement on disait quand on jouait au MMORPG, enfin moi la première,
je crois que c'était Morgane.
On disait que voilà, on se faisait passer pour un joueur et non une joueuse.
Il y a eu le même témoignage au Sénat où elle raconte une des intervenantes racontait que pendant un de ses MMO, en fait, elle s'était fait passer pour un mec pendant 7 mois à peu près et que elle a passé 7 mois à pas se faire emmerder vraiment pendant 7 mois, c'était 7 mois sans insulte, sans problème, sans rien du tout, et le moment où son genre a liqué parce qu'à un moment donné, elle était déjà harcelée avant.
Ouais.
Mais ce qui est intéressant entre guillemets, c'est que on retrouve également la même logique dans le masking pour les personnes qui ont des problèmes, qui ont des gros soucis. C'est du masking, mais c'est du masking numérique. Et on est, enfin les femmes sont obligées de le faire. Parce que sinon, elles sont victimes de tout un tas de saloperies qu'on retrouve systématiquement.
Et si c'est pas des insultes, ou en tout cas si c'est pas de l'agression, de la violence, ça peut être
discrimination.
On te considère nul en fait. De la paternalisation. Okay. Parce qu'on va considérer que t'es une femme, du coup tu sais pas jouer. Alors attends, je vais t'expliquer machin. Ouais. Et ça aussi c'est chiant en fait.
Ouais,
enfin,
c'est bien parce qu'on est
Et c'est rabaissant.
Bah en plus on est vraiment sur le béaba de l'incel attitude. C'est-à-dire que on va considérer que la femme est plus faible, donc elle a besoin de toi, donc on va lui donner des trucs, et lorsqu'elle va pas répondre favorablement au cadeau que tu as donné, il y aura une preuve de rejet, et donc
moi j'essaie d'être un mec bien et on me crache à la gueule et de condamnation
avec des termes que je ne peux pas employer ici parce que Bettina est à côté de moi.
Les intervenantes de Women in Game d'ailleurs faisaient le parallèle avec les milieux masculinistes, et que justement on retrouvait les mêmes schémas chez les milieux masculinistes que dans certaines tranches de joueurs de jeux vidéo.
Du coup, vu qu'il nous reste que 3 minutes, il y avait effectivement à regretter, par exemple, qu'il n'y ait pas de cadre législatif imposant des obligations sur ce genre de plateforme comme il existait à la radio ou à la télé. Par l'ARCOM. Les propositions donc étaient vraiment sur l'accompagnement dans les formations, l'orientation, la présentation des filières pour, malgré tout, permettre effectivement la continuité. Elle le disait, il y a un certain pourcentage de femmes dans les formations et un pourcentage de travailleuses dans le jeu vidéo qui est encore plus faible. Donc il y a de la perte en fait, entre la formation et le niveau professionnel, il y a encore de la perte. Un des éléments donc que j'évoquais tout à l'heure, mais qui pour moi va être un des trucs central de tout ce qui va découler de tout ça, tel que c'est évoqué, conditionner les aides publiques, notamment celles du CNC, mais pas que, les crédits d'impôt, dont on avait déjà parlé, à des engagements mesurables pour garantir les conditions de travail dans les studios. Ça, je pense que c'est quelque chose qui peut être le plus facilement mis en place et qui, visiblement, tenait à cœur à pas mal de monde dans tous les échanges.
Je te rappelle qu'il ne faut pas contraindre les entreprises.
Merci Anne Desvoissous. Clarifier la responsabilité des plateformes de streaming dans leur modération, leur obligation légale et les sanctions appliquées, ça c'est à mon avis un vœu pieux, mais comme l'évoquait quelqu'un dans le truc, quand on a constaté que sur Shane, le site de vente, il y avait des poupées sexuelles, on avait pu fermer l'accès au site en claquant des doigts. Faire poser des vraies sanctions automatiques et directes, on sait faire sur des sujets. La question c'est est-ce qu'on le fera pour ces sujets-là, et enfin finir par comme tu le disais tout à l'heure Julien, sur le créer un observatoire national pour produire des données harmonisées sur ces sujets, comme tu disais, des données qui des fois manquent ou sont à faire découler d'autres informations qu'on a pour pouvoir parler de certains sujets, parce qu'il n'y a pas de mesures qui sont actuellement faites. Maintenant,
relativement compliqué. On connaît le statut des statistiques ethniques, notamment en France, où on n'en fait pas.
Oui, on a fait le choix effectivement de dire que ça n'existe pas.
Et le problème, c'est que souvent, en fait, tu vas avoir des problématiques
du même genre et qui vont être
liées aussi par rapport à la question du genre, qui vont être en fait exclues à cause de cette doctrine-là.
Il y a un truc que je trouve un peu étrange par rapport justement aux sanctions, et que tu as précisé par exemple que Shine avait été puni parce qu'ils ont été punis en tant que vendeurs et qu'ils devaient avoir le contrôle tout à fait, sur, du contenu qui sur ce qu'ils vendaient. Mmh. Mais depuis, en fait, la ferme Megaupload en 2004, je crois, on a indiqué que la plateforme d'hébergement était responsable des contenus qu'elle gérait. Mmh. Et du coup, je comprends pas en fait pourquoi Twitch n'est pas tenu responsable.
La question effectivement est-ce que le cadre légal,
pourquoi YouTube
est-ce
que le cadre légal responsable, actuellement, etc. Ouais. Parce que ce sont des hébergeurs.
Mais du coup, voilà, ça évoquait le cadre légal actuel. Est-ce qu'il est suffisant? Est-ce qu'il est appliqué? Je pense que ça rentre là-dedans, ouais, clairement. Voilà, mais du coup on mettra parce que, enfin je te regarde Xavier parce que c'est toi qui le fera tous les liens bien évidemment dans le replay pour que vous puissiez regarder parce que...
Est-ce que tu crois que j'ai que ça à foutre?
Absolument, tu travailles demain?
Je le surveille
mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup plus à dire en fait sur ces sujets et surtout pour l'instant en tout cas comme tu le disais tout à l'heure il y a encore d'autres travaux qui seront menés, d'autres auditions, d'autres tables rondes.
Je pense qu'on
ce qui est évoqué c'est que le rapport final soit rendu en juin. Ça a été évoqué plusieurs fois. Maintenant, est-ce que ça rentrera dans leur calendrier? Est-ce que ça sera fini à temps? Ça, c'est une autre question. Mais on en reparlera, je pense, parce que c'est très intéressant. Ça ouvre à pas mal de choses, finalement, que je n'attendais pas forcément et que je trouve intéressantes qui soient évoquées. Et des fois même, le côté un peu candide n'est pas forcément très au fait des questions des différentes sénatrices, parce que c'est principalement des femmes qui ont participé, finalement, aux auditions. Te laisse penser qu'effectivement il y a encore du boulot. Ouais.
Eh bien écoute, merci Romain pour cette présentation résumée mais très complète. Merci Julien.
Avec plaisir.
Merci Bettina.
Merci à toi.
Merci à toi Xavier.
Et comme chaque semaine, on remercie le collectif Presse F5 qui héberge notre podcast Le Nerf de la Game et qui sera disponible d'ici demain matin 8h apparemment.
C'est la règle.
Voilà, c'est la règle. Et évidemment, on remercie Radio Canu pour l'accès au studio. On se retrouve jeudi prochain pour parler de tout à fait autre chose. D'ici là, amusez-vous bien.
Des bisous.
Salut.
Salut.